Bonjour, on est en compagnie de Pauline de l'association CDFF. Donc aujourd'hui, on va parler de votre association. Donc quel est votre rôle dans cette association ?
D'accord. Alors en fait, donc moi je suis juriste au CIDFF d'Arras, c'est le centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Alors au CIDFF, on assure des permanences juridiques dans le cadre d'accès au droit gratuit sur plusieurs branches du droit, droit de la famille, droit du travail et droit des étrangers. Mais le cœur de notre action reste la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les violences conjugales. C'est pourquoi en fait on réalise aussi de nombreuses interventions à titre préventif en milieu scolaire sur le thème de l'égalité filles-garçons, des violences, du harcèlement, des discriminations.
Du coup, quelles sont vos missions exactes, je vais dire concrètes, auprès des victimes ?
En fait, déjà, si on revient un petit peu sur l'essence même, les missions du CIDFF, c'est que le CIDFF exerce une mission d'intérêt général confiée par l'État. Et en fait, l'objectif vraiment global, c'est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. C'est aussi de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, en fait, les CIDFF, par le biais de juristes, de psychologues, de conseillères conjugales et familiales, en fait, informent, orientent, accompagnent le public, en priorité des femmes, dans les domaines de l'accès au droit, comme je l'ai dit, de la lutte contre les violences, mais aussi du soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la sexualité, de la santé. Voilà, il y a vraiment des axes transversaux.
Comment vous procédez pour venir en aide à ceux qui en ont besoin ?
En fait, les personnes peuvent prendre directement rendez-vous. Comme c'est de l'accès au droit gratuit, en fait, on intervient, on couvre pas mal de villes, en fait, dans le Pas-de-Calais, où on se déplace, nous, les juristes et les psychologues. On peut être reçus dans des points d'accès au droit, dans des maisons de justice, des maisons de réinsertion, des commissariats aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de lieux avec lesquels on a des conventions, des partenariats, et où, en fait, on tient des permanences fixes. Par exemple, ça peut être le mardi, tel jour, on a la maison de la justice de Lens, et en fait, entre 9h et midi, on va recevoir des gens qui nous ont appelés, et on va les placer sur ces permanences-là pour qu'ils puissent venir nous voir et discuter de leur situation et nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Voilà, les entretiens sont confidentiels, anonymes si les personnes le souhaitent. Donc nous, notre mission déjà en premier, c'est d'écouter. Voilà, sans juger, avec un devoir de neutralité aussi. Et on essaye de répondre aux questions tout de suite. Ça peut être des questions sur une séparation, sur les conséquences juridiques d'une séparation. Voilà, les gens sont un petit peu, quand ils viennent nous voir, ils viennent pas tout de suite chercher des informations forcément très 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 juridiques. Ça peut un peu partir dans tous les sens. Et nous, on essaye de recentrer vers la question de droit, essayer d'apporter des réponses tout de suite. Et si c'est pas possible, on revient vers les personnes. Voilà. Après, en termes de violence, si c'est des personnes qu'on reçoit pour violence conjugale, eh bien, tout dépend. On s'adapte en fait au rythme, on s'adapte au degré de gravité de ce qu'on nous décrit. Et puis on essaye, voilà. Nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir assurer un partenariat avec d'autres associations, parce qu'on n'est pas non plus un service d'urgence. On reste dans l'information, dans l'accompagnement. Mais si on doit réorienter, après, il faut avoir une solide connaissance du réseau partenarial. Si on doit réorienter vers des structures d'hébergement ou de prise en charge comme ça, il faut qu'on ait les bons contacts aussi.
Est-ce qu'il y a des règles particulières dans l'association ? Il y a des choses que vous avez le droit et pas le droit de faire ? Ou c'est assez libre.
En termes d'accompagnement sur nos limites, jusqu'où on va avec les personnes, d'accord. Alors forcément, on a un cadre quand même, on est salarié aussi, donc on a un cadre. Il y a quand même, il y a beaucoup de CIDFF en France, et du coup, il y a une fédération nationale, il y a quand même une charte aussi à respecter, mais on est quand même, on a une certaine autonomie dans nos missions, et il n'y a pas d'entretien type, en fait. Il n'y a pas de questions-réponses, il n'y a pas un fil conducteur qu'on peut dérouler, parce que toutes les situations sont différentes. Bien sûr, il y a des violences, on peut regrouper les violences par grand thème, violences psychologiques, violences sexuelles, mais on s'adapte en fait à la personne. C'est ça aussi la capacité, la compétence qu'on doit avoir aussi, c'est de pouvoir s'adapter, aller au rythme. Et en fait, on n'est pas professionnel du droit dans le sens, on n'est pas avocat, on n'est pas, on n'est pas dans le conseil stratégique, on est dans l'information sur les droits. Après, on propose toutes les possibilités, après bien sûr, c'est à la personne de faire son choix. Donc c'est vraiment ça notre limite aussi. Si on doit réorienter vers les professionnels compétents, on le fait.
Et du coup, les CIDFF sont répandus dans toute la France ou c'est seulement dans certaines régions ?
Il y en a partout, il y en a partout en France. Voilà, il n'y a pas que dans certaines régions, il y en a vraiment partout.
Pendant le confinement, comment est-ce que déjà vous avez pu continuer à aider les personnes en danger ou pas ?
Oui, pendant le confinement, en fait, on a continué notre activité, sauf que forcément, on avait obligation de travailler à la maison, comme c'est un travail qu'on peut aussi faire par téléphone ou si on doit faire des recherches juridiques, forcément, on pouvait travailler à la maison. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien développé notre campagne aussi d'information en disant à tous nos lieux de structure, en fait, qu'on continuait l'activité par téléphone. téléphone, par entretien téléphonique, plutôt que de se déplacer du coup dans les structures qui étaient fermées, eh bien en fait les personnes pouvaient appeler directement au CIDF et on les mettait sur un planning téléphonique. Voilà, donc on s'est organisé comme ça avec mes collègues juristes et psychologues et puis on rappelait les gens, voilà, dès qu'il y avait une demande. Et si notre secrétaire aussi, qui est très, très importante aussi au sein du CIDFF, c'est elle qui recueille en premier lieu les témoignages et les appels, c'est elle qui nous les redispatche aussi après. Et en termes d'urgence, voilà, dès qu'il y avait une situation de violence, on rappelait le plus rapidement possible la personne, on priorise, hein. Il y a des gens qui nous disent j'ai juste besoin d'une information, c'est pas très urgent juridique. Et après, il y a les personnes en situation de violence qui doivent quitter le domicile. Enfin, voilà, où là, il faut vraiment essayer de répondre le plus vite possible pour ne pas perdre le fil, quoi.
Et est-ce que, du coup, quand vous recevez, par exemple, des appels de violence conjugale ou violence très forte, est-ce que vous avez le droit ou l'obligation, ou c'est juste, entre guillemets, une option, d'appeler, par exemple, la police ou les pompiers si c'est vraiment trop grave ?
Alors ça, c'est vraiment une question, c'est très sensible parce que ça fait appel à plusieurs termes et plusieurs obligations juridiques. Mais quand c'est des personnes qui sont majeures, effectivement, sur la notion de danger imminent, on va essayer, nous, en tant que professionnels, savoir s'il y a un danger imminent pour elles. On va essayer de demander s'il y a des enfants présents au domicile, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a des enfants et qu'on a connaissance, mais ça s'applique à tous les citoyens, à partir du moment où on a connaissance d'enfants en danger dans leur moralité ou pour leur santé physique, en fait, eh bien, il faut intervenir. Là, c'est une obligation. Voilà. Il y a la notion de non-assistance à personne en danger aussi qui intervient. Donc, on est toujours à cette limite. On essaie vraiment de poser le maximum de questions pour savoir si la personne, s'il y a des enfants présents au domicile. Et là, effectivement, il faut intervenir. Alors, on demande aussi, quand c'est des personnes majeures et qu'il n'y a pas d'enfants, on leur demande si elles sont en danger, si elles souhaitent qu'on appelle la police pour elles. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire, effectivement. Mais sinon, voilà, il faut savoir que nous, quand même, on travaille avec les femmes à leur rythme et on essaye de ne pas briser le lien tout de suite. Il y a des fois où c'est compliqué, il y a des fois où elles ne souhaitent pas d'intervention forcément des forces de l'ordre tout de suite. Voilà. C'est, voilà, il faut essayer de dégrossir tout ça et de ne pas trahir le lien qu'on a avec elles. Parce que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est pas aussi facile que de dire allez porter plainte, voilà. Voilà, c'est pas aussi facile que ça, le mécanisme des violences, et pour pouvoir s'en sortir.
Pendant le confinement, c'était quoi les plus gros inconvénients, à part le confinement lui-même ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont, à part les restrictions sanitaires, mais il y a des choses qui ont posé plus de problèmes que d'autres ou pas ?
Bah, en fait, toute la question, c'était, voilà, quand on est confiné avec quelqu'un de violent, une femme ou un homme, hein, ça concerne pas que les hommes violents, mais comment on fait pour passer un coup de fil ? C'est tout simple en fait, hein. Comment faire pour passer un coup de fil si on est dans un appartement de 30 mètres carrés ou même dans une maison et que quelqu'un nous observe tout le temps ? En fait, c'est ça le problème. Donc là, si le conjoint est à la maison et que tout, voilà, c'est compliqué de pouvoir s'éclipser et d'appeler. Parce que ça met encore plus en danger finalement, si l'autre écoute. Voilà. Donc nous, c'était un peu notre problématique. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément relevé un nombre d'appels plus élevé pendant le confinement, parce qu'il y avait cette impossibilité de pouvoir prendre quelques minutes à l'abri du conjoint ou de la conjointe. Voilà. Après, sur les appels qu'on a eus, effectivement, notre problématique, c'était que forcément, en appel, on ne voit pas la personne, on peut pas, on est limité aussi, hein, il peut avoir des incompréhensions, il peut avoir, enfin voilà. Donc, c'est sûr qu'en physique, c'est quand même plus facile de pouvoir aussi libérer la parole et puis s'exprimer dans un confort aussi.
Et du coup, est-ce que, j'allais te demander, est-ce que vous avez eu des missions, entre guillemets, plus particulières qu'à l'ordinaire durant le confinement ? Est-ce que ça a fait que, comme ils étaient les personnes qui subissaient les violences, étaient confinées avec les personnes qui leur infligeaient, est-ce que du coup ça a créé des situations plus particulières qu'à l'ordinaire ou pas ?
Il y a une remontée, il y a une poussée des remontées des faits de violence, et il y a eu, de ce qu'on a entendu, enfin de façon généralisée, des violences qui étaient exacerbées, qui étaient pires. En fait, encore pire, voilà. De ce que nous ont remonté aussi les commissariats et tout ça. Forcément que la situation, elle a favorisé en fait des violences encore plus extrêmes finalement. Voilà, parce que la situation, elle déjà de base a été facile pour personne. Alors en plus pour des personnes qui sont violentes, ça pouvait exacerber en fait ça. Et ça a été le cas. Voilà, on a eu beaucoup. Alors on a eu quelques remontées de faits, notamment de violences sexuelles ou des choses comme ça. Voilà. de personnes qui nous appelaient aussi en disant « Est-ce que j'ai le droit d'aller porter plainte ? Est-ce que je peux partir ?» Alors, on est toujours dans le rappel de « Mais bien évidemment que vous pouvez partir si vous êtes en danger. Il n'y a rien, même si vous êtes marié, même si... » Enfin, voilà. C'est, voilà, notre devoir, c'est aussi de rappeler, de donner les bonnes informations parce qu'on entend tout aussi et n'importe quoi, hein, en s'informant par soi-même des fois aussi. Et voilà, après, il y a plein de choses qui sont mises en place hein, pendant le premier confinement, les pharmacies ou qui ont été le relais aussi. Les dames pouvaient prendre le prétexte d'aller, par exemple, à faire des courses ou aller à la pharmacie et le signaler à un professionnel qui pouvait appeler la police et faire venir. Voilà. Donc, il y a eu quand même des choses qui se sont mises en place.
Et du coup, après ce confinement, est-ce qu'il y a eu un retour à la normale, même si c'est pas, le mot est mal choisi, mais est-ce que ça, il y a eu une différence, une hausse ou une baisse dans les appels, dans les demandes?
Alors, comme on a vocation à intervenir sur plein de domaines du droit, les demandes de violence conjugale, elles sont bien sûr, les gens nous appellent parce qu'on est identifié comme association d'aide, enfin spécialisée hein, dans la lutte contre les violences conjugales. Mais nous, on n'a pas enregistré forcément de hausse. On a toujours beaucoup d'appels de femmes, parfois d'hommes aussi victimes de violences. Tout de suite, ils ne le disent pas forcément. Donc des fois, par exemple, quand notre secrétaire prend les rendez-vous, on ne sait pas toujours. En fait, les gens ne disent pas tout de suite qu'ils sont victimes de violences. Et c'est nous, après, dans nos entretiens juridiques, on essaye de poser certaines questions et en fait on se rend compte que les personnes sont victimes de violences. Donc tout de suite on ne le sait pas mais on le découvre au fur et à mesure. En créant un contexte un peu qui favorise la libération de la parole, on arrive à identifier en fait, à mettre le doigt sur des violences et les gens, des fois, les personnes ne s'en rendent même pas compte. Voilà. Donc notre travail aussi c'est de mettre les mots sur ça, leur dire que c'est pas normal et qu'elles sont victimes et que c'est interdit par la loi et que c'est pas une situation qui est normale.
Et est-ce que ça arrive des fois que ce soit... des enfants qui dénoncent des violences ou des faits pas habituels, faits sur leurs parents ou sur eux-mêmes. Est-ce que ça arrive des fois que ce soit des enfants qui appellent ou qui viennent, des adolescents ou même plus jeunes?
Oui, ça nous est arrivé. De toute façon, on reçoit plus de 2000 personnes à l'année. Donc, effectivement, on peut informer les jeunes, les mineurs. Notamment, nous, on a un lieu de permanence à la maison des adolescents d'Hénin-Beaumont. Donc en fait on y va tous les vendredis et c'est là où effectivement on a des contacts avec les adolescents. Alors c'est le lieu où effectivement je peux rencontrer des adolescents qui me remontent certains faits les concernant mais aussi qui peuvent me décrire de l'exposition à des scènes de violence conjugale. Voilà. Et là aussi on rappelle effectivement que c'est puni et que c'est interdit de faire assister ses enfants à des scènes comme ça.
Et du coup, comment est-ce que vous procédez maintenant avec le protocole sanitaire ? Est-ce que avec les rendez-vous, est-ce que ça pose problème aux personnes qui viennent ? Est-ce qu'elles ont eu peur à cause du Covid de venir encore plus que de rester avec les personnes qui pouvaient se montrer violentes avec elles ?
Bah, pendant le premier confinement, c'est vrai que quasiment toutes les structures ont fermé. Donc on n'avait pas le choix que de faire que des entretiens téléphoniques. Là, on a mis en place le fait que la règle, c'est l'entretien téléphonique, mais on a décidé de nous investir aussi et il y a certains points d'accès au droit comme ces missions de service public qui restent ouverts. Donc on a décidé de proposer quand même une permanence physique pour les personnes qui ont besoin d'aide rédactionnelle, qui ont besoin d'aide aussi dans les papiers, on peut vérifier hein, des fois des dossiers et puis pour les femmes qui souhaiteraient venir ou les hommes qui sont victimes, voilà, pour nous rencontrer physiquement. Donc on assure quand même les permanences physiques sont possibles.
Et maintenant je vais reposer quelques questions autour de l'association. Quel est exactement le rôle d'une juriste ?
Alors, le terme juriste, c'est du coup, nous, on a une connaissance du droit, donc on a fait des études de droit. Pour être juriste, voilà, on peut avoir une licence ou un master hein, spécialisé en droit privé ou public. On a une connaissance, le but, c'est d'avoir une connaissance éclairée de la loi, savoir bien chercher l'information, donner la bonne information, savoir manier aussi les différentes sources du droit. Comme ça, quand on nous pose une question, voilà, on va savoir où chercher tout de suite. On ne peut pas connaître tout parce qu'il y a des millions de pages de textes de loi possibles et inimaginables. Mais voilà, au CIDF, c'est particulier parce qu'on a une double casquette. On fait des permanences juridiques, on tient des permanences d'information. Donc on doit jongler entre pas mal de thèmes juridiques différents, de sources. Et on doit aussi agir pour la prévention. Et on doit aussi savoir animer des sessions d'information collective. Donc il faut... ça, c'est polyvalent, en fait. Quand on est juriste au CIDF, on n'est pas que juriste. Il faut savoir aussi développer ce côté information collective sur l'égalité, en fait. Voilà, sur le thème de l'égalité.
Et dernière question, est-ce qu'il faut forcément être travaillé dans le droit ou enfin, être salarié pour participer à l'association? Est-ce que vous embauchez, est-ce que vous avez par exemple des bénévoles ou des jeunes qui vous proposent leur aide?
Bah, en fait, dans les CDF, on est, c'est un travail salarié. Il y a une présidente, du coup, il y a une directrice, il y a des juristes, psychologues et secrétaires. On est salarié, on a un contrat de travail, donc dans notre association, il n'y a pas de bénévole. Après, le bénévolat, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Mais là, en tout cas, de mon expérience à moi, il n'y en a pas dans le CIDFF d'Arras. Après, il y a des stagiaires qui peuvent venir. Enfin, voilà, hein, ça c'est possible. Des services civiques, voilà. Mais il y a d'autres associations hein, qui peuvent faire intervenir des bénévoles. On n'est pas les seuls non plus sur le territoire à œuvrer en fait pour la lutte contre les violences. Hein. Mais le bénévolat est possible dans certaines associations, bien sûr.